Chapitre 1er. La vie de Guy de Maupassant a été tout à fait dépourvue d'événements au sens vulgaire où on emploie ce mot. Pour ce qui est des événements de la vie du cœur et de l'esprit, et de ces épisodes de la sensibilité qui souvent ont sur un écrivain une influence décisive, il a mis un soin jaloux à nous les laisser ignorer. Il a caché sa vie. Il ne se met pas en scène dans ses livres. Il n'y fait pas étalage de ses préférences et de ses goûts. Il n'y parle jamais en son nom, sauf dans un seul, qui est des derniers temps, et dont la publication lui fut presque arrachée. Nul, plus que lui, n'a échappé à cette manie qui, de nos jours, s'est développée parallèlement dans le public et chez les artistes, celui-là voulant connaître la personne quand il ne devrait qu'admirer le talent, ceux-ci se prêtant complaisamment à cette curiosité qui flatte en eux je ne sais quelle coquetterie presque féminine ou quel instinct profond de cabotinage. Toutes les fois qu'on l'a sollicité à se raconter lui-même, il s'y est refusé obstinément. Il a fermé sa porte à tous les indiscrets. Il a protesté par avance contre toutes les indiscrétions. Il a élevé un mur entre les hommes et lui. Cela vient en partie d'une méfiance maladive et qui était chez lui affaire de tempérament. Jamais ni à personne il ne s'est livré. Dans le monde, réservé et froid, il aborde volontiers tous les sujets, sauf pourtant ceux qui le touchent d'un peu près. Ses lettres ne contiennent ni confidence ni épanchement. Il n'a pas d'amis. Très persuadé de cette vérité, dont la constatation est pour lui une souffrance, qu'il nous est impossible d'entrer dans l'âme des autres, mais que chaque être au milieu des autres êtres forme un tout impénétrable et isolé. Véritablement, il a vécu seul. Et cela vient aussi de la conception très haute et un peu hautaine qu'il se faisait de son métier d'écrivain, car il affectait de n'y voir qu'un métier et un gagne-pain. C'était une affectation qui ne trompait personne, mais c'était surtout une manière de protester contre cette vanité sotte et ce gonflement trivial de tant d'autres qui ne parlent des lettres qu'avec une emphase ridicule et parce qu'ils y emploient leur loisir, se croient les pontifes d'une religion qui les élève au-dessus de l'humanité. Si sobre de détails sur lui-même, Maupassant ne nous renseigne pas davantage sur ses méthodes de travail. Il redoute les dissertations et les exposés de principes, quoiqu'il ait réfléchi à l'objet et aux conditions de l'art. Il pense que de l'écrivain rien n'appartient au public que son œuvre, indépendamment des origines d'où elle est sortie, des éléments dont elle est composée, des procédés par quoi elle a été élaborée. Rien que l'œuvre formant un tout à la manière des êtres organisés, vivantes et impersonnelles. Aussi, l'impersonnalité est-elle le caractère qui frappe d'abord dans l'œuvre de Maupassant. L'auteur s'efforce d'en être comme absent, ne laissant point percer son émotion, ne trahissant jamais sa présence par l'expression d'un jugement, mais content de faire passer sous nos yeux des êtres et des événements à la manière de la nature féconde et indifférente. D'autres, obstinément repliés sur eux-mêmes, ne sauront, sous des formes différentes, que retracer l'histoire de leur âme. Pour lui, au contraire, il tâche à sortir de soi, afin d'aller vivre la vie de personnages qui diffèrent de lui comme ils diffèrent entre eux. Il prend toutes les attitudes et tous les tons. Que si le lecteur, malgré cela, arrive à découvrir derrière ses récits la nature elle-même du conteur, l'espèce de son tempérament et de sa sensibilité, son humeur triste ou gaie, c'est qu'une œuvre, à moins d'être médiocre et sans portée, ne peut manquer de nous renseigner sur le tour d'esprit de celui qui l'a conçu. Il reste que l'écrivain impersonnel, au lieu de ne chercher qu'un moyen détourné pour se mettre en scène, a eu pour unique souci de créer un monde de personnages animés de leur vie propre. Son art est extérieur et objectif. Cela dit, il faut se hâter d'ajouter que nul ne doit plus que Maupassant à l'expérience qu'il a faite de la vie, et pour ainsi dire, au matériel de cette expérience. Spectacle auquel il a assisté, rencontre qu'il a faite, anecdote qu'on lui a rapportée. En sorte que si on voulait, comme on dit, rendre compte de la genèse de son œuvre, il faudrait le suivre pas à pas, énumérer les milieux qu'il a traversés, les incidents dont il a été le témoin, les personnages qui ont posé devant lui. Mais en les énumérant, on ferait le catalogue de tous ses récits. Cela est pour le moins curieux, et il faut y insister, puisque nous découvrirons par là quel est spécialement le tour d'esprit de Maupassant, cette disposition originelle qui fait qu'un homme devient un écrivain et d'une famille déterminée d'écrivains. Guy de Maupassant est né en Normandie. il y a passé toute sa jeunesse. Il y a fait par la suite de fréquents séjours. C'est aussi la Normandie qui a fourni le plus de matière à son observation. Elle lui a fourni paysages et personnages, chemins bordés de pommiers, intérieurs de fermes, places de marché, cabarets et tribunaux, coutumes locales, longues mangeailles après les noces, les baptêmes et les enterrements, et toute cette population née du sol, hobereaux, fermiers et filles de ferme, paysans rusés, processifs et farceurs. Par sa famille, dont il ne s'est rappelé que tard et sur le déclin de son intelligence les origines nobiliaires, il a été mêlé surtout à un monde de petite bourgeoisie. Et ces petits bourgeois reparaîtront dans son œuvre, figure disgracieuse, âme rétrécie par les préoccupations d'une vie mesquine et difficile. Ses études terminées, il a été quelque temps employé de ministère. Et voici défiler les bureaucrates malchanceux, défiants et potiniers, courbés sur la besogne ingrate, ployés sous la terreur du chef, rattachés au seul espoir d'un avancement, visités par le rêve unique de la gratification, produit d'une déformation spéciale introduite dans le type humain par la discipline de l'administration. Épris d'exercice physique et de sport nautique, il a ses canotiers, ivres de grand air et de jeunesse, dans le cadre habituel de leurs exploits, entre Bougival et Meudon. Ayant fréquenté dans toutes les régions du monde où l'on vend l'amour, il en rapporte les descriptions les plus précises. Mis en relation par les nécessités du métier avec le personnel des journaux du boulevard, il y prend sur le vif les types d'hommes et de femmes de belles amies. Au souvenir de la guerre, il doit ses récits de l'invasion. Obligé pour les soins de sa santé d'aller vers le midi, il en rapporte, avec ses récits de voyage, des aspects et des types nouveaux. Et subissant malgré lui dans les derniers temps la séduction des élégances mondaines, il se fait à son tour l'historien de l'humanité qu'on rencontre dans les salons. C'est ainsi qu'il est étroitement dépendant des milieux par où il passe. Il semble que tout son effort consiste à en dégager la littérature qu'ils contiennent, ou encore que son œuvre lui soit imposée successivement par chacun d'eux. De même, presque tous les individus qu'il met en scène ont existé, mêlés réellement aux aventures qu'il leur prête. Boule de Suif a existé, telle qu'il nous la montre est digne de son surnom. Et elle a été l'héroïne de l'exploit d'un genre spécial pour lequel sa mémoire a mérité de ne pas périr. Mouche a existé, et aussi le rosier de Madame Husson. La maison Tellier existe à Rouen, et ses pensionnaires ont figuré à la pieuse cérémonie qui les remua si profondément. L'aventure de ce cochon de Morin s'est déroulée entre Gisors et les Andelys. Le fond d'autres nouvelles a été fourni à Maupassant par des amis. On nous dit quand et par qui. Mais il y a plus. Quand on trouvait, dans tous les recueils de Maupassant, de ces troublantes histoires, récits de nuit passés sous l'étreinte d'angoisses innommées, hallucinations, visions d'êtres étranges et de spectacles de l'autre monde, phénomènes de dédoublement, comme si dans notre fauteuil et devant notre table, au moment de nous y asseoir, nous nous apercevions ainsi déjà, sensation douloureuse de l'invisible devenue soudain palpable et hostile, et toutes ces pages haletantes et frémissantes du frisson de la folie, on croyait que l'écrivain ne fit qu'exploiter, après d'autres, cette mine de récits et ce genre, le fantastique. Quelques-uns le lui reprochaient. Hélas, ici encore, il se contentait d'enregistrer des histoires arrivées. Il décrivait ce qu'il avait vu, ayant lui-même, ces fois-là, servi d'objet à son observation et par un don de double vue fixé sur lui son propre regard. Tel est le procédé ordinaire de Maupassant. Il n'invente pas, il n'imagine pas. On devine bien qu'en le constatant, je n'entends en rien diminuer la part de création qui lui revient. Mais il y a pour le moins deux familles d'écrivains. Les uns partent d'une idée, dont l'espèce peut d'ailleurs varier à l'infini, depuis le rêve du poète jusqu'à la conception abstraite du moraliste. Cette idée est génératrice de l'œuvre. Elle appelle, évoque, fait se lever, se grouper, s'agencer autour d'elle les éléments qu'elle emprunte à la réalité. Elle les modifie, elle les vivifie. Elle se crée à elle-même ses moyens d'expression. Ces écrivains devancent et ils dominent l'impression reçue de la réalité. D'autres, au contraire, dépendent de cette impression. Ils partent d'un fait. Le travail qu'ils accomplissent s'opère sur une donnée qui leur vient du dehors. Maupassant est de cela. il définit quelque part la faculté spéciale à l'écrivain. Son œil est comme une pompe qui absorbe tout, comme la main d'un voleur toujours en travail. Rien ne lui échappe. Il cueille et ramasse sans cesse. Il cueille les mouvements, les gestes, les intentions, tout ce qui passe et se passe devant lui. Il ramasse les moindres paroles, les moindres actes, les moindres choses. Ce n'est encore que la sensibilité réceptive qui emmagasine les images. Elle peut suffire au peintre, elle ne suffit pas à l'écrivain. Pour celui-ci, un geste n'a de valeur qu'autant qu'il traduit un mouvement de l'âme. Une attitude ne vaut qu'autant qu'elle est significative d'une émotion, et toute l'apparence physique qu'autant qu'elle est révélatrice du caractère. Aux données de la sensation, il faut que s'ajoute le travail de l'intelligence. Ce travail se fait chez Maupassant à la fois très rapide et très intense. Il se trouve en présence d'un individu qu'il ne connaît pas ou que de longue date il a perdu de vue. Dans un seul élan de ma pensée, plus rapide que mon geste pour lui tendre la main, je connus son existence, sa manière d'être, son genre d'esprit et ses théories sur le monde. C'est ainsi. Dans la vision d'un homme de province, c'est toute la vie de province qui lui apparaît. De même, à rencontrer un vieil homme affalé sur les banquettes d'une brasserie, il devinera tout le caractère avec toute l'existence, la veulerie primitive de la volonté et la crise d'où ce faible est sorti à jamais vaincu. Et la maigre silhouette et le profil anguleux d'une ménagère lui diront mieux que toutes les confidences la longue médiocrité d'une existence rétrécie. Il en va pour les faits comme pour les êtres. Si de la vie où nous sommes mêlés, tant d'épisodes nous semblent indifférents et passent inaperçus, sans avoir fixé notre attention, c'est que le sens nous en échappe, comme les mots d'une langue inapprise frappent vainement notre oreille. Mais il est clair qu'un fait reprend sa signification et avec elle son intérêt dès que nous apercevons les mobiles d'où il est issu et que nous le voyons naître dans ses causes. C'est ce qui arrive pour l'observateur qui, dans le raccourci de chaque vision, découvre tout le long travail que résume chaque moment d'un être ou d'une vie. Maupassant possède à un degré éminent ces deux sens très simples, une vision nette des formes et une intuition instinctive des dessous. Ce don d'apercevoir par l'inspection rapide de l'extérieur le dedans qui y est contenu, c'est chez Maupassant le don primitif et essentiel qui rend possible pour lui le travail de l'écrivain et qui le détermine par avance. Induit à écrire, non par la poussée d'une idée, mais par l'impulsion qu'il reçoit des choses, des êtres et des faits, il se tiendra tout près de la réalité. Et cette réalité lui apparaîtra divisée en tableaux ou en actes, dont chacun forme un tout isolé et complet. L'éducation littéraire à laquelle fut soumis Maupassant accentua encore chez lui ses dispositions de nature. Voici comment il résume l'enseignement qu'il reçut de Flaubert. Il s'agit, disait Flaubert, de regarder tout ce qu'on veut exprimer assez longtemps et avec assez d'attention pour en découvrir un aspect qui n'a été vu et dit par personne. Il y a dans tout de l'inexploré. Pour décrire un feu qui flambe et un arbre dans une plaine, demeurons en face de ce feu et de cet arbre jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus pour nous à aucun autre arbre et à aucun autre feu. Ayant en outre posé cette vérité qu'il n'y a pas de par le monde entier deux grains de sable absolument pareils, il me forçait à exprimer en quelques phrases un être ou un objet de manière à le particulariser nettement. Tout donc a contribué à fixer l'œil de Maupassant sur la réalité particulière aperçue directement, puis étudiée en elle-même et creusée dans ses dessous. Quelle fut d'ailleurs l'influence de l'auteur de Madame Bovary sur celui qu'il appelait son disciple, et fut-elle profitable ou fâcheuse? En tout cas, elle fut profonde. Entre beaucoup de choses que Maupassant dut à Flaubert, il lui doit quelques-uns de ses plus incontestables défauts. L'hypocondrie du maître, s'ajoutant à celle de l'élève, contribua à rendre plus méprisant le regard que celui-ci jetait sur l'humanité, comme si un homme avait le droit de mépriser les hommes et comme si le premier devoir de l'artiste n'était pas un devoir de sympathie. Et l'élève acceptait de confiance quelques-uns des partis pris les plus aveugles du maître. C'est ainsi qu'il a mis dans son œuvre tant de Bouvard et un peu trop de Pécuchet. Par bonheur, il sait, sur certains points, et grâce à la vigueur de sa propre personnalité, défendu de cette influence. Il n'a jamais cru, comme Flaubert, que la littérature fût le tout de la vie. si même celle-ci n'a été instituée uniquement afin d'être traduite par celle-là. Il n'a pas davantage eu part aux puérilités que conseillait à Flaubert sa superstition du style, ni cru qu'un hiatus fût une affaire d'État. Sur d'autres points, il a su se dégager peu à peu de cette influence. Et, par exemple, ayant conçu d'abord le réalisme sur le modèle de celui de l'éducation sentimentale, il s'en est fait par la suite une conception différente, plus personnelle, et mis en accord avec les instincts d'artiste qui étaient en lui. C'est de même qu'entré dans les lettres sous les auspices de M. Zola, et dans le temps où le naturalisme triomphait, il a dû à ce compagnonnage des débuts presque toutes les erreurs et les affectations regrettables de sa première manière, comme le souci de ne décrire qu'une humanité restreinte étudiée dans des types d'exceptions choisis encore entre les plus bas, comme dans certaines peintures l'exagération du trait poussée jusqu'à la caricature, et comme la grossièreté de l'expression soulignant celle des sujets. Le naturalisme avait fait ce miracle de brouiller la vue de cet observateur au regard si net. Il lui fallut un peu de temps pour se remettre au point. Apparemment, le plus grand service que ses amis Bouillet et Flaubert aient rendu à Maupassant dans l'apprentissage auquel ils l'ont soumis, ça a été de le soumettre à un apprentissage. Bouillet, pour sa part, lui répétait que sans vers, s'ils sont irréprochables, suffisent à la réputation d'un artiste. Il lui faisait comprendre que le travail continuel et la connaissance profonde du métier peuvent, dans un jour d'heureuses rencontres, amener cette éclosion de l'œuvre courte, unique et aussi parfaite que nous la pouvons produire. Et sans doute, en lui donnant ce conseil, il l'exprimait avec une conviction d'autant plus âpre qu'il se rendait compte, en honnête ouvrier de lettres, d'avoir toujours manqué cette perfection toujours souhaitée. Flaubert, pendant 7 années, fit déchirer à Maupassant vers, contes, nouvelles, drames, et enfin tous ses essais, dont plus d'un sans doute eût été bien accueilli des lecteurs. Il lui épargna ainsi ses premiers et perfides succès, dont le plus grand danger est d'égarer un écrivain hors de sa véritable voie, et dont le moindre n'est pas de l'encourager à aller dans le sens de ses défauts. Les leçons sont trop rares aujourd'hui de l'art difficile et des laborieuses préparations. Lorsque Maupassant commença de publier, il était lui-même. Il avait eu le temps, loin du public, de dégager son originalité. Cette originalité était assez accentuée pour qu'il pût réagir contre la mode, ou même pour qu'il pût s'y prêter sans péril. Du premier au dernier de ses recueils, l'inspiration, dans ce qu'elle a d'essentiel, restera la même. Pour ce qui est de la forme et des procédés, il n'a varié qu'autant qu'on peut varier tout en restant soi-même.